On va lire ensemble les premiers versets du chapitre 7 de l'Ecclésiaste. Si vous n'avez pas de Bible, on peut vous en passer une. Si vous ouvrez votre Bible au milieu, comme Sébastien l'a rappelé, vous tomberez sur le livre des psaumes et vous partez un peu à droite, tombez sur les proverbes et puis l'Ecclésiaste, chapitre 7, c'est page 659 dans la Bible à la colombe. On va lire ensemble les 14 premiers versets. Bonne renommée vaut mieux que de l'huile parfumée, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, dans celle-là où se trouve la fin de tout homme, et le vivant en prend conscience. Mieux vaut le chagrin que le rire, car malgré un visage triste, le cœur peut être heureux. Le cœur des sages est dans la maison de deuil et le cœur des insensés dans la maison de joie. Mieux vaut écouter le reproche du sage qu'être homme à écouter la chanson des insensés. Comme les sarments crépitent sous la marmite, ainsi est le rire des insensés. C'est là encore une vanité. L'oppression affole le sage et les cadeaux font perdre le sens. Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te presse pas d'être mécontent dans ton esprit, car le mécontentement repose dans le sein des insensés. Ne dis pas d'où vient que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux-ci. Car ta question ne proviendrait pas de la sagesse. La sagesse vaut mieux qu'un héritage et même davantage pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est comme à l'ombre de l'argent. L'avantage de la connaissance, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé ? Au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait exactement l'un comme l'autre, de telle sorte que l'homme ne découvre rien de son avenir. Arrêtons-nous là. Et comme je l'ai évoqué, les premiers passages, les premiers versets que nous avons vus ensemble il y a plus d'un mois maintenant, l'Ecclésiaste, c'est un terme qui veut simplement dire le prédicateur, et on pense, on a toutes les raisons de penser qu'il s'agissait du roi Salomon. Il s'attaquait à la vie qui se passe uniquement sous le soleil, c'est-à-dire la vie qui est vécue simplement au naturel, sans égard pour Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas croyant, on peut penser qu'il y a un Dieu, mais on vit sans se référer à lui, sans lui demander conseil, sans penser beaucoup à lui, sans qu'il ait une importance dans notre vie quotidienne. Et ça peut être le cas de certains parmi nous. C'est facile d'être tellement pris par les soucis de la vie quotidienne et les joies que la parole de Dieu n'a pas de place pour grandir. Ça vous rappelle la parabole du semeur qui semait la même semence dans des terrains de qualité différente. Il y avait d'abord le terrain rocailleux, où rien ne poussait, plutôt la route sur laquelle les graines étaient enlevées par les oiseaux du ciel. Il y avait le terrain où il y avait un peu de terre et au départ ça semblait bien partir, mais rapidement sous le soleil, les plantes se desséchaient et mouraient. Puis il y en avait d'autres qui tombaient dans les broussailles, dans les ronces. Et ces plantes qui essayaient de pousser, elles étaient étouffées par ces ronces. Et puis il y en avait qui tombaient dans la bonne terre. Et ces plantes, ces graines, elles poussaient pour devenir des plantes qui donnaient une récolte. Et la petite graine, elle était multipliée par 10, par 20, par 100. Et dans nos vies aussi, la parole de Dieu, le fait que Dieu existe, le fait qu'on nous ait dit que Dieu existait, que son fils Jésus était mort pour nos péchés, ça peut tomber sur un terrain où cette semence, cette vérité est enlevée presque tout de suite. Ou alors on se dit oui, c'est ça la vérité, et puis on se laisse reprendre par la vie, on est desséché sous le soleil, par le soleil. Ou alors c'est les soucis de la vie, et c'est ce que Jésus-Christ explique aux disciples, que les tracas, les soucis de la vie, et c'est vrai que la vie est difficile. Parce qu'il y en a qui pensent que la vie n'est pas difficile. Eh oh ! C'est facile quand on est tout petit. Et encore, même là, on commence déjà à pleurer. Et quelqu'un disait que les cris du nouveau-né, on est heureux lorsque le médecin ou la sage-femme donne une bonne claque sur les fesses du pitchoun ou de la pitchounette et qu'il pousse un grand cri, il aspire de l'air. Et quelqu'un disait ça, c'était prophétique de ce qui nous attendait dans la vie. Désolé, hein, c'est pas très gai aujourd'hui. Mais c'est bien des fois de faire face à la réalité et plutôt que d'imaginer des romans et puis d'avoir des retours à la réalité qui sont brutaux, de se dire non, c'est ça. Mais il y a une façon d'aborder ces problèmes. Et ces soucis, ces factures impayées, ces voitures qui tombent en panne, ces machines à laver qui craquent au milieu alors qu'on n'a pas de finances pour les faire réparer. Vous connaissez tous ces problèmes. Non, ce ne sont pas des problèmes plus graves de relations, de maladies, de décès, de chagrin. Et donc cette conception de dire que si vous vivez votre vie sans égard pour Dieu, votre vie, elle est futile. Elle est vide de sens. Elle passe très vite. Et vous vous retrouvez un peu comme un animal qui meurt. Il n'y a rien qui reste. La Bible nous dit que notre âme, elle perdure, elle continue. Que si on n'a pas connu Dieu, si on n'a pas connu Dieu par son Fils Jésus-Christ, qui est le seul chemin, la vérité et la vie, le chemin qui mène à Dieu, sans lui on ne peut pas connaître Dieu vraiment. Si on va vivre pour toujours séparés de lui. Et c'est ça l'enfer. C'est un endroit réel dont la Bible parle de façon très précise. Ce n'est pas une jolie métaphore. Aujourd'hui, c'est si vous dites à vos voisins, à vos amis que vous croyez à l'enfer et au paradis, ils vont peut-être vous éviter la prochaine fois que vous passez par là. Et en même temps, Dieu a mis dans nos cœurs le sentiment de l'éternité. On a vu ça dans l'Ecclésiaste 3, 12, je crois. On a quelque part 3, 11. Il a mis dans leur cœur le pensée de l'éternité. On peut prétendre que rien n'arrive après la mort, qu'on retourne à un néant. Mais en même temps, c'est quelque chose de très difficile à admettre. Et les gens qui pensent comme ça veulent toujours laisser quelque chose pour qu'on se rappelle d'eux. On va construire la Bibliothèque de France pour que même si on s'appelle François Mitterrand et qu'on meurt, et on sait qu'il était en recherche sur ce thème, quelque chose perdure de nous. Parce qu'on se dit que ça ne peut pas s'arrêter aussi brutalement. Après avoir parlé de cette vie sous le soleil dans les sept premiers chapitres, maintenant il va nous parler encore de la sagesse. La sagesse dont il a déjà évoqué la futilité si elle est vécue sans égard pour Dieu. Il y a une sagesse pratique qui est une application de connaissances. Mais il y a une sagesse plus importante qui vient de Dieu, qui fait que on pense à Dieu. On a lu le début du chapitre 7 et vous avez remarqué peut-être que ça rappelle beaucoup les proverbes dont Salomon est un des auteurs principaux. Et un proverbe, c'est une vérité qui est dite sous une forme très concise et qui nous apprend à vivre, qui nous dit comment vivre. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse, elle se brise. Il y a un comique, je crois que c'est Desproges ou peut-être Bigard qui se moque de la sagesse populaire de ces proverbes. Il dit « Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle est mouillée ». Ou il reprend des proverbes mais il les dévie. La Bible utilise ce genre de procédé littéraire pour nous indiquer des vérités importantes. Et ces proverbes, il est dans cette première partie qu'on a lue, on voit qu'il parle beaucoup de la sagesse. En fait, dans les chapitres 7 et 8, le mot sagesse va revenir 28 fois. Et cette sagesse, elle nous permet de mieux vivre. Les proverbes, il peut y en avoir. Il y a plusieurs styles, c'était écrit en hébreu. Différents styles, essentiellement trois. Il y a des proverbes qui créent des contrastes. Pour qu'on retienne bien l'idée. Un exemple, un fils sage écoute l'instruction d'un père, mais le moqueur n'écoute pas le reproche. Donc on voit le fils sage et puis on voit le moqueur, et dans notre esprit, on se dit de quel côté on veut être. Si on veut être du bon côté, être sage, on va vouloir écouter l'instruction du père. Ça, c'est le proverbe 13:1. Il y a des proverbes qui complètent une idée, comme le proverbe 14:10, le cœur connaît sa propre amertume et un étranger ne saurait partager sa joie. Donc on dit quelque chose et on ajoute une idée qui complète l'idée. Et puis il y a d'autres proverbes qui sont du genre « ça vaut mieux qu'eux ». Et c'est le genre de proverbe qu'on retrouve dans ce début du chapitre 7. Il y a l'expression « ça vaut mieux qu'eux ». Alors, il y avait une chanson drôle, probablement des années 30 ou 40, qui disait « ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine ». Et l'humoriste racontait des tas de mésaventures, mais il disait toujours « ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine ». Ce qui n'était pas toujours vrai, mais là, ça commence par « bonne renommée vaut mieux que l'huile parfumée ». Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Et ça paraît un peu fort de café, un peu dur à accepter, un peu dur à avaler. Alors la première partie, bonne renommée vaut mieux que l'huile parfumée. C'est vrai, on pense aujourd'hui l'huile parfumée, peut-être la plus chère, je ne sais pas si c'est toujours le Chanel numéro 5. Ça doit coûter 100 € le petit flacon, ou plus, je ne sais pas. Nancy n'a pas des... Peut-être qu'elle aimerait, en fait. Oups! Dommage, son anniversaire est déjà... On conçoit que de l'huile parfumée, ce soit inférieur à une réputation. Quelqu'un a dit qu'on a trois noms. On a le nom qu'on nous donne le jour de notre naissance. Moi, c'était Pierre-Paul Joseph. Et puis, il y a le prénom que les autres nous donnent. Alors, il y en a certains qui m'embêtent en me disant « Ah, c'est le révérend ». J'ai horreur de ce terme, bien sûr. Mais ce qui compte, c'est comment on se rappellera de nous. Quelle réputation on aura laissée, quelle renommée, quel effet plutôt on aura provoqué par notre vie. Et donc ça, on est d'accord à accepter que il vaut mieux avoir un bon nom plutôt qu'un flacon d'eau de Cologne. Même si on vient de Cologne. Par contre, dire que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance, ça semble aller contre ce qu'on aurait tendance à penser. Et c'est vrai que si on vit sous le soleil, vaut mieux le jour de la naissance où tout reste à faire que le jour de la mort où tout est fini. Par contre, c'est vrai que si on considère que le jour de la mort, c'est l'entrée dans une nouvelle vie beaucoup plus riche, beaucoup plus abondante, beaucoup plus fantastique que la vie que nous menons ici, alors à ce moment-là, on est d'accord pour dire que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Paul, lui-même, dans Philippiens, disait dans Philippiens 1, 21, « Pour moi, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Un gain, c'est avoir davantage. Un gain d'argent, c'est lorsqu'on a plus d'argent parce qu'on a fait quelque chose qui nous a amené à recevoir plus d'argent. Et ce que dit Paul, il dit qu'en fait, il préférait partir. Il a le désir de s'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Il reconnaît qu'il n'a pas fini son œuvre ici-bas, Mais pour lui aussi, le jour de la mort, c'est le jour qui vaut mieux que le jour de sa naissance. Et encore une fois, ça, on peut l'admettre, que si on a cette sagesse qui vient d'en haut, dont Jacques nous parle, la sagesse qui vient d'en haut, qui n'est pas comme la sagesse du monde. La sagesse du monde, c'est une sagesse pratique qui n'est pas à négliger, mais qui n'est pas inspirée par Dieu et qui ne permet pas d'atteindre les choses de Dieu. Mieux vaut aller, continue-t-il, dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Et là encore, c'est si on vous posait la question, est-ce que vous préférez aller faire un tour au cimetière de Cocade ou aller à la soirée sur la prom avec la musique et la danse, faire la fête, ou aller voir traîner du côté des pompes funèbres. Il n'y aurait aucune hésitation de votre part comme de ma part. On préférait ne pas parler de choses tristes. Et notre société a vraiment essayé de reléguer la mort dans le groupe des choses dont on ne parle pas entre gens de bonne compagnie. Quand j'étais enfant, dans les années 50 et 60, je me date, mais lorsqu'il y avait un décès dans une famille, les pompes funèbres venaient mettre un grand drap noir sur le devant de votre immeuble. À la porte cochère, il y avait souvent avec l'initiale de la personne décédée et tout le monde savait qu'il y avait eu un décès. Quand on portait le deuil, on portait un brassard noir autour du bras pour que les gens sachent que vous aviez perdu un être cher. On n'avait pas ce tabou de la mort, de parler de la mort qu'on a aujourd'hui. Et pourtant, la mort est bien présente. On le voit dans les attentats terroristes, dans les accidents, dans les catastrophes. Mais c'est toujours, on espère que c'est le plus loin possible de nous. Et encore une fois, ce décès lundi dernier de ce papa, tellement aimé par ses enfants et ses petits-enfants, c'est quelque chose de trop brutal. On a du mal à accepter cela. Et c'est vrai que dans le sens où on va dans une maison de deuil, on va être amené à penser à une chose sérieuse qui peut nous apprendre à mieux vivre. Quand on ne pense qu'à s'amuser, qu'à voir le bon côté des choses, et ce n'est pas mauvais en soi, mais dès qu'il y a la moindre difficulté, pour être un peu vulgaire, dès qu'il y a le moindre pet de travers dans nos vies, on est catastrophé, on est malheureux. Et puis, quand on pense à la réalité de la mort, on se dit, attends, c'est pas parce que j'ai un pneu crevé que je dois me rendre malheureux. Certes, c'est pas la chose qu'on préfère, mais il faut mettre les choses en perspective. Et quand on va dans la maison de deuil et qu'on n'a pas ce rire factice de surface, c'est bon, lorsqu'il y a encore du temps pour vivre et de corriger notre façon de voir les choses. Et ce n'est pas un appel à être obsédé par la mort, à être des gens que les autres évitent parce que, oh non, c'est Joe la mort qui arrive. Mais à ne pas avoir peur de penser à ces choses. À penser à ma propre mort. Et bientôt un an, à la fin du mois, j'ai eu cet accident de canyoning où je me suis cassé une vertèbre. Je n'étais pas en danger de mort, mais j'étais en danger de me retrouver paralysé. Mais du jour au lendemain, un accident sur la route, sur un avion qui vous tombe sur la tête, on peut être parti. Est-ce qu'on a dit aux gens qu'on aime, qu'on les aimait? Ou est-ce qu'on est toujours en dispute avec telle ou telle personne parce qu'ils nous ont fait ça, ils nous ont fait telle chose ou telle autre chose? Si on vit sous le soleil, on ne va pas faire l'effort nécessaire pour pardonner, pour dire qu'on aime. J'aime beaucoup cette chanson de Louis Chédid qui dit « On ne dit pas assez souvent aux gens qu'on aime, qu'on les aime. » Parce qu'en fin de compte, tout ce qui compte, c'est pas la richesse. C'est pas votre villa avec une piscine. C'est pas votre voilier. C'est pas votre superbe maison, votre forme physique qui impressionne tous vos amis, votre beauté, vos vêtements qui comptent. Ce sont vos relations. Les relations avec vos conjoints, les relations avec votre famille, les relations avec vos voisins, avec vos amis, avec vos parents, et surtout votre relation avec Dieu. C'est ça qui compte. Mais ça, on s'en aperçoit que si on s'aperçoit que toutes les choses auxquelles nous tenons tant, elles peuvent nous être enlevées du jour au lendemain. On va continuer. Et il dit, malgré un visage triste, le cœur peut être heureux. Cette jeune femme, Christel, elle est dévastée, elle est dans le chagrin, et en même temps, elle a une paix intérieure parce qu'elle sait que son papa connaissait Dieu et qu'elle va le revoir. Le visage est triste, le visage est marqué par la douleur, les larmes, le manque de sommeil, le chagrin, mais en même temps, elle a cette paix dans le cœur. Son cœur est heureux malgré son immense douleur. Et le cœur des sages, il est dans la maison de deuil. Par contre, le cœur des insensés, dans la maison de joie. Si on pense qu'à tout le temps à s'amuser, on vit comme un insensé. C'est pas mauvais, et Dieu pourvoit toutes les bonnes choses. Rien de ce qui est bon ne... Tout vient de lui, les bonnes choses comme les mauvaises, on le verra plus bas. Mieux vaut écouter le reproche du sage qu'être homme à écouter la chanson des insensés, comme les sarments crépitent sous la marmite, ainsi est le rire des insensés. C'est là encore une vanité. Est-ce que vous aimez qu'on vous corrige? C'est difficile pour tous. Ça va contre notre orgueil naturel, contre notre âme indépendante. Mais là encore, il vaut mieux écouter des reproches lorsqu'ils viennent de quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui veut notre bien, plutôt que d'être à poursuivre les compliments de quelqu'un qui n'a aucun bon sens. Il y a un jeu de mots en hébreu qui est bien rendu par cette version. Le rire des insensés, c'est comme des sarments qui crépitent sous la marmite. Ça crépite sous la marmite. Non, ça peut être une petite expression, un peu un mot de passe entre nous. Ça crépite comme sous la marmite. De quoi s'agit-il ? Ça veut dire que ça ne dure pas longtemps. Quand on va faire notre retraite aux enfants à la montagne, généralement en octobre, donc cette année c'est pour le 9, 10 et 11 octobre, on aime bien, si c'est permis, faire un grand feu, et les plus belles flammes sont celles qu'on obtient en faisant brûler des ronces, des sarments. Et c'est vrai que ça crépite, ça va très vite, ça fait une grande flamme, mais en 5 minutes, c'est fini. Eh bien, le rire des insensés, la chanson des insensés qui nous font des compliments, ça dure très peu de temps. C'est une vapeur, c'est une futilité, c'est une vanité. Il ajoute, l'oppression affole le sage et les cadeaux font perdre le sens. Là, il fait allusion au pot de vin et aux influences qu'on peut exercer les uns sur les autres. Mais il ajoute, verset 8, « Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son commencement. » Pourtant, c'est là aussi, ça va un peu contre ce qu'on penserait naturellement. C'est beaucoup plus excitant de commencer quelque chose de nouveau que de faire durer quelque chose qu'on a commencé il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. C'est pour ça que souvent, on passe d'un projet à un autre. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont commencé des projets qui n'ont pas avancé depuis plusieurs années. Ou même depuis plusieurs mois. On a des amis qui viennent chez nous et qui nous demandent si on a... Je sais que je ne devrais pas dire ça, non, s'ils n'aiment pas. Qui nous demandent si on a repeint nos chambres. On a trouvé la parade, c'est qu'on a collé au mur des échantillons de couleurs. Donc on peut dire, pas encore, mais on y réfléchit. Mais en fait, on y réfléchit depuis quand ? Depuis 2007. Il y en a qui étaient là, qui nous ont aidés à déménager. Et il y en a même qui ont enlevé le papier peint qui était là pour nous forcer à aller vite et à nous décider. Mais c'est devenu un projet. On est passé à plein d'autres projets, mais celui-là, il en est toujours à son commencement. Et il vaudrait mieux que ce soit terminé pour qu'on puisse en profiter. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te presse pas d'être mécontent dans ton esprit, car le mécontentement repose dans le sein des insensés. La patience, cette vertu tellement importante, qui l'oppose pas à la précipitation, mais à l'orgueil. Ça aussi, ce n'est pas quelque chose qui nous viendrait naturellement à l'esprit. d'opposer l'orgueil à la patience. Parce que l'orgueil, c'est moi. Ça ne devrait pas prendre autant de temps pour moi. Pourquoi cette file d'attente prend tant de temps alors que moi j'ai un horaire pressé? Pourquoi ces imbéciles devant moi ne vont pas plus vite? Ils ne savent pas que moi, qui suis tellement important, j'ai un rendez-vous. Et on voit que souvent c'est cet orgueil de dire moi d'abord, et va à l'encontre d'un esprit patient. Pour être patient, il ne faut pas se presser d'être mécontent dans son propre esprit. Hier, j'ai été gonfler les pneus dans notre voiture, ça arrive une fois par an. Des fois, il y a des surprises, on a roulé pendant des centaines, des fois des milliers de kilomètres avec un pneu qui était à moitié dégonflé. Mais c'est la mauvaise période pour gonfler vos pneus. Il y a des files d'attente aux pneus. Et j'étais prêt à attendre, mais pas trop quand même. Et un pauvre gars qui est venu avec son tricycle et qui n'a pas fait la file d'attente, je lui ai fait savoir ce que j'en pensais. Je me suis pressé d'être mécontent. Et je lui ai fait savoir. Vous prenez pour qui? Vous faites la file d'attente? Il y a des gens qui attendent ici depuis un quart d'heure, depuis une demi-heure. Vous prenez pour qui? Mais en même temps, ça fait monter ma tension. Et j'ai demandé pardon au Seigneur. La personne finalement n'a pas attendu. Elle a dû essayer d'aller faire le même coup quelque part d'autre. Ne dis pas d'où vient que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceci. Car ta question ne proviendrait pas de la sagesse. La sagesse vaut mieux qu'un héritage, et même davantage pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est comme à l'ombre de l'argent. L'avantage de la connaissance, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un exactement comme l'autre, de telle sorte que l'homme ne découvre rien de son avenir. Ah, c'était le bon vieux temps. Il n'y avait pas tous ces bouchons. Ils n'étaient pas sur l'autoroute, ils étaient sur la Nationale 7. Et ça prenait encore plus de temps. Et puis à l'époque, il n'y avait pas bison futé. On partait tous au même moment sans savoir. On a tendance à idéaliser le passé, à redouter l'avenir et à ne pas vivre le présent. Franchement, je n'aime pas la chaleur de Nice l'été, avec l'humidité. Mais quand je vois les photos et que je suis bien au frais, je dis, qu'est-ce que c'était beau. J'oublie qu'en même temps qu'il y avait le soleil et les belles couleurs, la belle végétation, la mer d'une belle couleur, qu'on en pouvait plus tellement il faisait chaud. Et on a tendance à idéaliser le passé. C'était le bon vieux temps. C'était les 30 glorieuses. Il y avait de l'emploi. Il fallait travailler dur quand même pour pouvoir se payer un frigidaire, un frigo, un réfrigérateur. Il fallait travailler dur pour pouvoir se payer une petite 4 chevaux ou une dauphine. Vous ne connaissez pas ces voitures, tant mieux pour vous. Mais là encore, ce n'est pas une question qui vient de la sagesse divine. Et là, il commence à dire, la sagesse, c'est même mieux que l'argent. L'argent, on peut le perdre du jour au lendemain. Si on est imprégné de cette sagesse divine, de cette sagesse qui vient de la parole, cette sagesse qui vient de Dieu, on est à même de faire front, de vivre toutes les épreuves. La sagesse, nous dit le même Salomon, c'est le début de la sagesse. La sagesse, plutôt, c'est la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Et c'est là où il dit qu'on ne peut rien faire contre ce que Dieu fait. S'il a décidé de courber quelque chose, on ne pourra pas le redresser. On ne peut pas connaître notre avenir. Par contre, on peut connaître celui qui connaît notre avenir. Il nous dit de jouir du bonheur au jour du bonheur, de recevoir les bonnes choses que Dieu nous permet de posséder, de faire l'expérience de ces choses. Et puis, quand les difficultés arrivent, réfléchir et de réaliser que Dieu a permis l'un comme l'autre, mais qu'on peut toujours lui faire confiance. Dieu ne nous promet pas de nous éviter les épreuves, mais il nous promet d'être toujours là avec nous. Et ça, ça vient de la sagesse que de réaliser ces choses. La sagesse, elle nous préserve des erreurs humaines, c'était les versets 11 et 12, et nous permet aussi d'avoir la perspective divine sur les choses. La sagesse, elle nous apprend à considérer Dieu, à penser à lui à tout moment et en toutes circonstances. Quelles que soient vos circonstances. Pas seulement quand ça va bien, ou seulement quand ça va mal. La plupart des gens, c'est quand les choses vont mal qu'ils sont prêts à dire « Je veux bien que vous priez pour moi. » Sinon, ne m'embêtez pas avec vos histoires de Bible et de religion. Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Toutes ces choses-là, ça nous apprend à vivre. Et c'est d'un grand secours dans tous les moments de notre vie. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta sagesse. Merci de nous l'avoir transmise par ta parole. Merci que tu nous dis que si nous pensons à toi, si nous redoutons ta puissance, que ça va nous amener à la sagesse. Merci parce que tu dis un Dieu saint, trois fois saint, infiniment puissant, que tu pourrais nous détruire lorsque nous adonnons au péché, lorsque nos vies sont tellement loin de toi. Mais tu es patient, Seigneur, et tu veux nous faire connaître ta vérité. Tu l'as inspiré par ton Esprit Saint aux auteurs, comme Salomon, comme cet Ecclésiaste. Et Seigneur, nous voulons la recevoir animée par ton Esprit Saint, Seigneur. Que cette sagesse, elle vienne transformer nos vies, Seigneur. Te demandons cela dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.